Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Elisabeth Laville. Elle est la fondatrice du cabinet de conseil et du think tank Utopie. C'est en 1993, peu après le sommet de la Terre à Rio, qu'Elisabeth Laville a imaginé une structure permettant d'accompagner les entreprises dans leur démarche de développement durable. 25 ans plus tard, l'entreprise a diversifié ses activités, mais reste fidèle à son objectif premier. Avec Elisabeth Laville, qui s'inscrit comme l'une des pionnières du développement durable en France, nous discutons de greenwashing, de stratégie business, d'intérêt général et d'entreprise à but lucratif. Un épisode très riche, un peu plus long que d'habitude, mais qui, j'espère, vous plaira. Très bonne écoute à tous! Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, s'il vous plaît, et ensuite on parlera d'Utopie et de tout ce que vous avez entrepris depuis plus de 30 ans?
Oui. Alors, donc je m'appelle Elisabeth Laville, j'ai 53 ans, j'ai fait HEC, je suis sortie en 88, j'ai travaillé pendant 5 ans, un peu moins de 5 ans, dans deux agences de communication, au planning stratégique. Dans la dernière agence, c'était CLM BBDO, qui était à l'époque l'agence d'Apple notamment. Et j'ai créé en 93, donc ça ne fait pas encore plus de 30 ans, c'est plutôt 26. 25 pour l'instant, ouais. Un cabinet de conseil et un think tank qui s'appelle Utopie, qu'on a commencé à deux, sous forme associative à la base, parce que l'objectif c'était vraiment de promouvoir une nouvelle vision de l'entreprise, des nouvelles pratiques plus engagées. Voilà, et Utopie, 25 ans après, emploie à peu près 50 personnes et toujours un cabinet indépendant. Je dis toujours parce que c'est pas évident. Beaucoup de mes concurrents qui sont nos concurrents qui sont apparus pendant ces 25 ans, entre temps, se sont revendus à des très gros cabinets de conseil. Voilà, et on a toujours l'activité de think tank, à peu près un cinquième du temps de l'équipe est consacré à des recherches, des publications. Là, l'idée, c'est vraiment, comme on dit dans notre manifeste, de faire avancer les consciences des dirigeants, beaucoup. Et puis, on a deux initiatives en parallèle, l'une sur la consommation responsable et l'autre sur l'enseignement supérieur, on y reviendra peut-être. Et puis, le reste du temps... C'est des missions de conseil pour des grandes entreprises internationales ou des plus petites locales. L'idée, le point commun, et parfois des collectivités, le point commun étant de les aider à intégrer le développement durable dans leur stratégie business. Voilà.
Et quand vous l'avez créé en 93 sous forme associative, l'idée c'était d'accompagner ces entreprises. C'était quoi votre idée? Pourquoi forme associative? Pourquoi pas directement une entreprise?
Alors l'idée, c'était déjà de faire un boulot qui ait du sens pour moi. Donc en fait, j'avoue que c'était beaucoup ça le driver.
C'est né d'une prise de conscience
Ouais, non, c'est né d'une envie après 4-5 ans dans la pub, j'avais envie de faire quelque chose. Je me disais, quitte à passer beaucoup de temps au boulot, autant que ça, faire quelque chose où j'ai l'impression d'être utile, en fait. Donc c'est vraiment parti de ça. Et donc, je ne savais pas trop. Et Catherine, avec qui j'ai créé Utopie, elle avait un profil plus RH. Donc, on n'avait pas trop d'idées sur est-ce qu'il y avait un marché ou pas, en fait. Et par contre, ce qu'on savait, c'est qu'on voulait créer un projet qui transforme les entreprises. Et donc, comme finalement, c'était avant tout pour cette raison-là qu'on voulait créer Utopie, on s'est dit que la forme associative, ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que c'était la mission qui passait avant le fait de gagner notre vie avec ça. Et puis finalement, et avec l'idée quand même qu'on voulait concilier les deux. Voilà, donc... Mais c'est vrai que ça reste important et on en reparlera peut-être aussi quand on a fêté les 21 ans d'Utopie. Je voulais réaffirmer, on voulait réaffirmer ce côté entreprise engagée. On dit souvent ça même en interne, voire militant. Et on a choisi la certification B Corp pour le faire. Mais c'était vraiment une façon de réactiver cet aspect-là, de dire qu'on peut, ce qui est dans Bicorp et ce qui était complètement à l'origine d'Utopie, être une entreprise à but lucratif et en même temps être au service de l'intérêt général.
Et quelle a été la première entreprise ou les premières entreprises que vous avez accompagnées ? J'ai vu que vous aviez beaucoup travaillé avec Nature et Découverte, très tôt.
Alors en fait, dans les trois premières entreprises avec lesquelles on a travaillé, il y avait le label de commerce équitable Max Havelaar, dont on a travaillé sur le lancement en France, à l'époque avec une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Saveur du Moulin, qui faisait du café, avec les supermarchés Match, et avec Max Havelaar en France. Ensuite, avec effectivement Nature et Découverte, dont on a travaillé assez rapidement sur la charte d'engagement de l'entreprise qui existe toujours 25 ans après, qui n'a pas changé, donc avec qu'on a travaillé avec François Lemarchand, le fondateur. Et puis, et dans la foulée, après la charte d'engagement, on a fait quelque chose qui s'appelait le bilan arc-en-ciel, qui était en fait le premier rapport de développement durable publié en France, qui était, une fois qu'on avait fait la charte d'engagement, l'idée c'était comment on rendait compte sur cette charte pour vérifier que ce n'est pas du pipeau et juste une déclaration d'intention. Et le troisième client pour lequel on a travaillé assez vite, c'était le groupe Carrefour sur le lancement de Carrefour Bio, en fait, voilà.
Mais à cette époque, c'était quand même assez nouveau. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce qui se faisait à l'étranger ? Comment
Alors, on a commencé. L'autre raison, effectivement, pour laquelle on était sous forme associative, c'est qu'on a commencé par... et ça rejoint la dimension de think tank actuelle, c'est-à-dire qu'on publiait une newsletter trimestrielle. Alors, je parle d'un temps tellement préhistorique qu'on avait, je ne vais pas dire pas Internet, mais en tout cas Internet sous une forme assez rudimentaire. Et donc, on publiait une newsletter papier qui était un trimestriel sur l'engagement des entreprises. Pourquoi ? Parce que ça nous semblait... effectivement, on était assez branchés sur des initiatives internationales. On parle de ça. Moi, j'ai commencé à imaginer le projet un peu avant le sommet de la Terre de Rio en 92. Et donc, il y avait pas mal d'articles dans la presse anglo-saxonne, notamment. Je pense notamment à une revue alternative que j'aime bien, qui existe toujours aux US, qui s'appelle Utne Reader. Et là-dedans, il y avait eu un numéro spécial sur l'engagement des entreprises, par exemple, des Ben & Jerry's, etc., des boîtes qui n'étaient pas connues en France à l'époque, ni même en Europe, parce qu'elles n'y étaient pas, tout simplement. Et donc, un des enjeux, et on a assez vite eu un partenariat qui est devenu une relation amicale avec un garçon qui était correspondant du Point à San Francisco à l'époque, qui lui nous écrivait et nous envoyait, j'avoue, par fax, des articles sur des exemples qui existaient. Alors nous, on faisait les articles sur les entreprises européennes, Body Shop, etc. Et puis, lui nous envoyait des exemples d'entreprises anglo-saxonnes, américaines, on va dire outre-Atlantique, et notamment californienne, Patagonia et autres. Voilà. Et donc avec ça, on faisait un mix qui faisait une petite newsletter d'une vingtaine de pages qu'on a publiée pendant 5-6 ans avant qu'elle passe en ligne, sur Internet, etc. Voilà. Et c'est effectivement avec ça qu'à la fois qu'on s'est inspiré, nous, sur le projet au départ, et puis que... On partageait en fait cette vision-là avec les entreprises en France, en sachant que cette dimension d'inspiration par les meilleures pratiques ou même par les next practices, comme on dit maintenant, ça reste une dimension assez structurante du travail qu'on fait aujourd'hui avec les entreprises. C'est-à-dire, je pense qu'il y a il n'y a pas de meilleure façon de convaincre les gens que par l'exemple, en fait. En France, on a beaucoup tendance à essayer de convaincre par les idées. Le problème de ça, c'est que, et j'adore les idées, c'est que vous arrivez à convaincre intellectuellement, mais en pratique, les gens ne voient pas concrètement qu'est-ce qu'ils vont faire différemment le lendemain matin. Et l'avantage des exemples inspirants, c'est qu'au fond, même si vous ne l'avez pas analysé, que vous n'arrivez pas à en sortir toutes les idées clés, ce qui est aussi ce qu'on fait dans le think tank aujourd'hui, mais même si vous n'arrivez pas à faire ça en première instance, ça vous donne à minima envie de faire la même chose ou un truc proche, ou ça montre que c'est possible, et ça a des vertus vraiment importantes. Donc on faisait beaucoup ça pour montrer aux entreprises, pour donner à voir en fait ce qu'on imaginait, ce qu'on voulait promouvoir et qui nous semblait à la croisée de plein d'interrogations qu'il y avait à l'époque, qu'il y a toujours, sur comment on donne du sens au travail des salariés. C'était la grande époque où on parlait des projets d'entreprise, et moi je trouvais à l'époque que ce qu'on en faisait en France, c'était pas très très convaincant, parce qu'il y avait souvent beaucoup de grands mots, des grands concepts, qui étaient en gros les mêmes d'ailleurs d'une entreprise à l'autre. Donc le projet n'était pas spécifique à l'entreprise. Et donc, comment on donne du sens au travail des gens ? Le fait de relier l'activité quotidienne à un but un peu plus haut, ce qu'essaient de faire les entreprises aujourd'hui avec les, en essayant de relier leur stratégie aux objectifs de développement durable des Nations Unies, au fond, ça faisait ce boulot-là, de donner du sens au travail des gens. Ça faisait aussi le boulot de différencier la marque, donc pour les clients. Et puis, ça faisait enfin le boulot d'inspirer l'innovation. Et au fond, si on fait ces trois choses-là, c'est-à-dire de donner des idées concrètes de nouveaux produits, etc. Et donc voilà, c'est ça qu'on faisait avec cette newsletter.
Et aujourd'hui, si une entreprise vient vous voir, comment ça se passe concrètement ? Vous analysez tous ces champs d'action et vous voyez là où il y a des potentielles améliorations à apporter ?
Alors c'est un peu ça, ça va dépendre un peu de la demande en réalité, parce que...
Vous êtes quand même consacré au développement durable.
Oui, alors ça, c'est sûr. Mais historiquement, les entreprises venaient nous voir avec une demande, typiquement il y a 25 ans, venaient nous voir avec une demande qui était beaucoup plus large qu'aujourd'hui parce qu'elles connaissaient moins le sujet. Donc le sujet, c'était c'est quoi ce truc et qu'est-ce qu'on peut faire avec, en gros. Aujourd'hui, par chance, il y a dans les entreprises la maturité et des gens et des entreprises aidant, les demandes sont plus précises. Donc on va avoir des gens qui viennent nous voir sur le lancement précis d'une gamme plus responsable en sachant pas trop comment aborder le sujet, soit en amont de la conception, soit au moment du lancement. D'autres qui viennent nous voir en disant « on a déjà une démarche, mais on sent qu'elle n'est pas assez intégrée au business, pas assez engagée, on veut la rendre plus engagée parce qu'on sent que c'est le moment pour raison X, Y, Z, un nouveau PDG, un nouveau dirigeant, une nouvelle dirigeante, une demande plus forte des clients, une concurrence plus forte ». De petites marques qui viennent nous challenger, etc. Bon, voilà. Donc, ou de l'accompagnement à faire quelque chose. Par exemple, on a travaillé avec Blédina sur le lancement de la gamme bio, mais vraiment sur la construction de la filière. En gros, ils arrivaient un peu après un certain nombre d'acteurs, on va dire, sur le bio. Et donc, il fallait apporter un truc en plus, parce que si c'est juste pour faire la même chose que ce que d'autres font déjà depuis 10 ans, c'est moins convaincant. Bah, ça peut faire une partie du boulot, mais c'est moins convaincant. Et donc, on les a aidés à travailler sur les contacts avec la filière bio en amont, les agriculteurs, qu'est-ce qu'on peut amener de différent, etc. Donc, il y a plein de cas. Et il y a aussi des cas où nous, on s'autorise, maintenant qu'on a un peu plus de bouteilles et d'expérience et de crédibilité aussi, à répondre à côté. C'est-à-dire que j'ai par exemple un de nos clients avec lequel on travaille pas mal, qui est la banque MCB à l'île Maurice, qui est la première entreprise du pays, première banque du pays, qui est venue nous voir au départ il y a 2 ans avec une demande qui était « on veut une stratégie RSE plus solide ». Bon, alors nous on a dit « oui d'accord, mais une stratégie RSE, en fait, séparée du business, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Donc nous ce qu'on vous propose c'est de retravailler la stratégie RSE, mais vraiment de réfléchir à comment on intègre ça dans vos business, limite dans le positionnement de votre marque, etc. D'autant plus que c'est une entreprise... petite à l'échelle internationale, mais grosse à l'échelle du territoire. Et que, du coup, elle a joué, c'est une banque bicentenaire, elle a joué un rôle historiquement dans le développement économique de Maurice, dans le développement de tous les secteurs, le textile, le tourisme, etc. Et donc, elle a un peu comme dans la citation de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Elle a vraiment la capacité d'influencer le développement économique de l'île Maurice et du coup le type de prospérité que Maurice met en œuvre. Et donc ce qu'on on a orienté toute la recommandation stratégique vers quelque chose qui en fait est devenu le nouveau positionnement de la banque, sa nouvelle raison d'être et qui drive aujourd'hui sa stratégie d'innovation, etc., qui est on veut être la banque d'une nouvelle prospérité à Maurice et une prospérité qui soit plus pas que financière mais qui inclut les dimensions sociales, environnementales, un peu le bonheur national brut du Bhoutan, mais à Maurice. Et donc ça suppose vraiment des nouvelles directions dans les produits bancaires, les services, le positionnement de la banque, etc.
Et comment, en tant que consommateur, on peut savoir, parce que maintenant, toutes les entreprises ou presque ont un pôle RSE, comment on peut être sûr de leurs engagements ? Ça s'est énormément développé, c'est pas pareil qu'il y a 20 ans. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression, des fois, d'être victime du greenwashing ? Est-ce que le greenwashing existe ou pas ?
Oui, bah la réponse, elle est un peu dans votre question. C'est-à-dire qu'on sent bien, en tant que consommateur, là, pour le coup, c'est pas la peine d'être expert. Et moi, personnellement, je fais partie des gens qui pensent que très souvent, les consommateurs sont plus experts que les gens dans les entreprises, hein, pour être clair, qu'il y a plus d'attentes du côté des consommateurs que de dynamique du côté des entreprises, pour être très clair. Mais donc je pense que les gens, il faut se faire confiance. Si vous avez l'impression qu'on vous prend pour une andouille, souvent c'est vrai.
C'est que c'est le cas.
En fait, non, oui, mais des fois c'est vrai, mais inconsciemment. C'est-à-dire que les gens dans les entreprises pêchent par manque de culture sur le sujet, par manque de connaissance des meilleures pratiques, pas par manque de volonté d'engagement, en fait, paradoxalement. J'ai vu des gens dans des grandes entreprises qui étaient des responsables marketing de telle ou telle marque faire des trucs maladroits, pas par intention de prendre les gens pour des cons, si vous me passez l'expression, mais vraiment plutôt par maladresse et par manque de connaissance du sujet. Donc c'est là, typiquement, qu'on sert à quelque chose, souvent. Parce qu'au fond, même les gens dans les boîtes, ils sont pas que vous et moi, c'est-à-dire ils cherchent un peu plus à mettre un peu plus de sens dans leur boulot et ces sujets-là leur permettent de le faire quand on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Bon, après, il faut le faire de manière pertinente. Alors parfois, c'est pas grave non plus, enfin, c'est une espèce de courbe d'apprentissage. Ils se plantent une fois, deux fois, trois fois, puis au bout d'un moment, ils comprennent ce que ça veut dire. Donc si vous regardez bien, je sais pas, le chat machine chez le chat à la lessive chez Henkel, qui est pas un de nos clients, mais vous voyez bien que pendant 10 ans ils ont dit ce petit coin de nature machin est idéal pour vous parler d'une nouvelle lessive qui au fond était pas très écologique, qui s'est fait, alors qui a un peu convaincu les consommateurs, puis pas tellement, puis qui s'est pris un peu les salles des ONG qui disaient non mais elle est pas plus verte qu'une autre, c'est pas parce qu'il y a le type au milieu du ruisseau, au milieu du champ près du ruisseau qui raconte ça, et puis 10 ans après ils se sont mis à se demander les collaborations européen qui au moins garantit. Donc les consommateurs par exemple qui sont attentifs à ça connaissent quand même un peu les labels. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que dans un hypermarché ou supermarché courant vous avez peut-être quoi 70-80 labels et que tout le monde les connaît pas. C'est pour ça qu'à un moment nous que j'avais lancé cette initiative sur la consommation responsable et qu'un des boulots qu'on a fait c'était de sortir un guide des labels qui aidait les gens à s'y retrouver et les marques aussi d'ailleurs j'avoue. Mais quand même, les gens connaissent un peu le label bio, le label équitable, l'écolabel européen, etc., etc. Bon, alors, voilà. Et donc oui, parfois, les marques font... En fait, la question du greenwashing, elle est... Il y a 25 ans, avant Rio, Greenpeace avait sorti un petit guide à l'attention des citoyens un peu engagés qui s'appelait Greenwashing Detection Kit. Donc comment on fait pour détecter le greenwashing ? Alors eux, ils mettaient trois critères qui étaient d'abord le critère que l'activité, le cœur de l'activité même de l'entreprise soit aligné avec les principes du développement durable. En gros, si le cœur de votre business, c'est détruire les ressources, des ressources naturelles non renouvelables, c'est compliqué. Donc ça pose plus la question pour, j'en sais rien, des compagnies d'énergie, par exemple, hein, mais ou des gens qui font du bois, du papier, etc. Ce qui pose la question. En tout cas, eux, ils disent attention, s'il y a ça, il y a warning. Je vais revenir après dessus. Le deuxième critère, c'était tout ce que ça avait trait à la com. Ils disaient en gros, si il y a plus de budget sur la com que sur les actions, il y a un problème. Et en même temps, je vais y revenir aussi, parfois ça peut être utile, au moins pour amorcer la pompe. Et puis, ils disaient si il y a beaucoup, beaucoup de com. En gros 20% du budget de com sur une gamme qui représente 0,3% des ventes, il y a warning et à nouveau ça peut être utile au moment où vous la lancez, il faut bien communiquer plus que ce que c'est. Bon, donc ça c'est moi qui le dis, c'était pas eux. Et le dernier critère qu'ils donnaient, c'était le lobbying, c'est-à-dire qu'ils disaient en gros faut regarder, bon, la politique de communication de marketing elle est visible, faut regarder aussi ce que fait l'entreprise quand elle est dans des sphères moins visibles et notamment le lobbying où elle essaie d'influencer les lois, etc. C'est-à-dire que si une entreprise dit mais moi je suis hyper engagée sur l'écologie, etc. et que parallèlement on s'aperçoit qu'elle fait partie de cercles d'entreprise, de cercles de lobbying qui militent contre des lois plus exigeantes sur les sujets de l'écologie, alors on a potentiellement un problème. Bon, voilà. Donc ça donne une petite liste de critères. Après, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant quand même à considérer. C'est que le greenwashing, il peut être, comment dire, il peut être vertueux au sens où il va obliger, si une entreprise communique plus qu'elle ne fait en fait, ou plus fort ou plus vert que ce qu'elle ne fait en réalité, ou plus social ou plus bon, de deux choses l'une, soit elle se fait torpiller à juste titre par les instances de la pub, les consommateurs, les ONG, etc. Et... elle va décider qu'elle arrête de communiquer sur le sujet. Option 1, elle ne change pas ses pratiques et elle communique moins pour remettre les deux au même niveau. Mais quand même, ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que au bout d'un moment, elle va finir par essayer de faire monter ses pratiques pour les mettre au niveau de sa com. Donc, d'une certaine façon, cet écosystème de « je communique un peu trop fort, un peu trop mal, un peu trop de manière... un peu trop tout court et un peu de manière pas pertinente sur ce que je raconte, pas précise, souvent, ça va la mettre dans une spirale de progrès, en fait. Bon, alors... Finalement, c'est pas ce que je dis. L'exemple que je donnais du chat, finalement, ils ont fini par prendre l'écolabel européen, ce qui est pas, enfin, sur une lessive, pas sur l'ensemble, mais ça reste, c'est assez vertueux au fond. Ça a pris du temps, ils auraient pu le faire tout de suite, hein, parce que c'était pas très compliqué à trouver comme idée. Mais néanmoins, il y a une spirale vertueuse. Et par ailleurs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que si des entreprises veulent s'engager dans des transformations radicales, j'insiste sur le radical, alors il y a un risque de greenwashing à prendre qui est la communication sur l'engagement. Par définition, alors les Français détestent ça, parce que les Français se disent « Non, mais comme on n'est pas sûr d'atteindre les objectifs, on ne les communique pas. » En même temps, si vous ne communiquez pas vos objectifs, bah vous n'êtes pas engagé. C'est-à-dire que personne ne va vous dire « Eh, mais tu t'étais engagé il y a 5 ans à faire ci, faire ça, et finalement tu ne l'as pas fait. Je suis engagé qu'à partir du moment où je vous dis « Je m'engage à faire ça », et donc, il faut le dire. Et donc, un certain nombre d'entreprises, et notamment les anglo-saxonnes, arrivent à faire des grosses campagnes de communication sur des projets de transformation radicale. Je vais prendre un exemple. Marks & Spencer a lancé en 2007, puis à nouveau de manière forte en 2010, un truc qui s'appelle le plan A, qui était vraiment un plan. Il y a 180 points d'engagement dans le plan A, de transformation radicale de l'entreprise, en décidant de devenir le retailer le plus durable au monde, etc., le distributeur. Donc, et le premier engagement des 180 engagements du plan A, c'est de se donner 10 ans, donc entre 2010 et 2020, pour faire en sorte que 100% des produits Marks & Spencer portent une garantie développement durable. Donc c'est un truc absolument colossal, et ça renvoie à un point qu'on évoquera peut-être, qui est de viser une transformation de 100% de l'offre, qui pour moi est le standard aujourd'hui, sur lequel très peu d'entreprises sont engagées, hein, pour être clair. Mais si vous vous engagez à ça... moi, je trouve que vous avez intérêt à le dire parce que sinon, vous n'êtes pas engagé et que si vous n'êtes pas engagé, eh ben, vous ne le ferez pas. Et notamment, si vous engagez sur des objectifs un peu radicaux, un peu impossibles en fait, ou radicaux, genre 100% des produits, zéro déchet, etc., comme la ville de San Francisco a communiqué pendant 20 ans sur son engagement zéro déchet, devenir la première ville au monde. Et si elle ne l'avait pas dit, elle l'atteindrait probablement pas. Or, il est probable qu'elle l'atteigne. Et entre-temps, elle a entraîné plein de gens dans cette mouvance-là. Donc ça, on pourrait se dire, bah, au fond, c'est du greenwashing parce qu'il communique déjà sur les effets vertueux de cet engagement sans l'avoir atteint. Et il vaudrait mieux, d'autres, des entreprises que je respecte beaucoup, genre Patagonia, disent bah « Non, nous, on communique que sur les choses une fois qu'on les a faites. » Ce qui est une autre approche. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez l'espèce de force de traction qu'il y a dans le fait de prendre des objectifs radicaux et de les annoncer publiquement. Alors, ça ne veut pas dire faire une grande campagne de com, mais Marks & Spencer, quand ils ont lancé le plan A, ils ont mis pendant une semaine tout leur budget de com, donc les vitrines, les t-shirts des équipes en magasin, les PLV en magasin, les campagnes radio, les campagnes d'affichage, les campagnes presse, etc., sur le lancement de ce plan-là. Et ce qui est clair, c'est que ça a mis énormément de pression. C'est une façon de s'obliger à le faire, en fait. Et de s'obliger à le faire, même une fois que le PDG change, que peut-être le PDG, parce que c'était un plan sur 10 ans, donc inévitablement, il y a des changements dans la gouvernance, la direction de l'entreprise dans ces moments-là. Il y a des moments où, économiquement, c'est le cas l'an dernier, c'est plus difficile pour eux. Et donc, pour être sûr de garder le cap, en fait, la seule façon de s'obliger à garder le cap, c'est de l'annoncer. Et d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est du greenwashing, mais je trouve que ce greenwashing-là, entre guillemets, il mérite d'être... Enfin, ce risque-là, il mérite d'être pris.
Oui, puis ça crée une relation de confiance aussi avec le consommateur, parce que l'entreprise reconnaît qu'elle n'y est pas encore, qu'elle n'a pas encore atteint cet objectif-là, mais elle leur explique « je vais le faire et je vais tout mettre en œuvre pour l'atteindre ».
Oui, alors ce qui est vrai, c'est que ce truc-là, ça va de pair avec une forme de transparence assez radicale aussi. Si vous prenez des objectifs radicaux, il faut être radical sur tout, donc la transparence aussi. Et ça suppose d'être capable en permanence, alors en permanence j'exagère, mais enfin au moins chaque année, dans le rapport développement durable ou équivalent, de dire ben voilà où on en est maintenant par rapport à ce qu'on a dit. Ben là-dessus, on n'y est pas parce qu'on n'y arrive pas, etc. Et ça, c'est le lot aussi des entreprises plutôt pionnières sur le sujet. Si vous regardez la façon dont Veja, par exemple, sur son site, parle de... Il y a une petite section qui s'appelle « Les limites du projet », je crois. Je sais plus si ça s'appelle toujours comme ça sur le nouveau site, mais enfin... Bref, et ça, ça commence de tout ce qu'ils n'arrivent pas à faire par rapport au projet. Donc, ça commence... Ça va de, des lacets qui ne sont pas bio, de mémoire, au fait que, malgré tout, ils sont quand même dans l'industrie de la mode, qui est une industrie qui vit... du fait d'acheter des chaussures nouvelles juste parce qu'elles sont cool alors qu'on n'a pas besoin de nouvelles chaussures, etc. Et donc ça engendre de la consommation de ressources pas forcément utile. Bon, entre-temps, il y a un certain nombre de, d'autres sujets qui sont difficiles pour eux. Et voilà. Et donc, d'une certaine façon, le fait d'être capable d'être transparent aussi bien sur ce que vous faites bien que sur ce que vous faites pas bien et sur ce que vous voulez transformer. À un moment, Patagonia avait lancé une initiative qui s'appelait Chronique de notre empreinte qui disait produit par produit... Il y avait trois rubriques, c'était the good, donc ce qui va bien, ce dont on est assez satisfait parce qu'on arrive à le faire à la hauteur de nos attentes, de nos valeurs, de notre engagement, the good, the bad, ce qu'on n'arrive pas à régler sur ce produit, j'en sais rien, il voyage encore, on achète la fermeture éclair là et elle est transportée ensuite à Hong Kong et ensuite c'est transporté ailleurs, je sais pas quoi, the bad, donc ce qu'il faudrait qu'on améliore encore, et what we think, c'est comment est-ce qu'on s'y prend pour améliorer ce produit. Voilà. Et ben, ça, c'est aussi une forme de transparence qui construit la confiance avec les consommateurs. Et ce qui est vrai, c'est que la confiance aujourd'hui envers une marque, elle va se construire aussi, et ça, c'est aussi, ça répond aussi à votre question sur le greenwashing, un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'historiquement, on envoyait un message de com et derrière, on apportait les preuves. Aujourd'hui, c'est presque souvent l'inverse, et on construit les preuves. Et derrière, on leur donne du sens, en fait. On explique pourquoi on le fait et on fait savoir qu'on le fait, mais on commence par faire, en fait.
Il ne faut pas avoir peur de l'échec si on annonce ses objectifs.
Non, mais de toute façon, alors là, pour le coup, sur le développement durable, c'est pas... Ben, ça peut, alors c'est pour ça que j'avais choisi le nom d'Utopie à la base, d'ailleurs, mais c'est à la fois une quête de perfection et en même temps, avec la conscience que l'objectif, il recule toujours devant vous. C'est des boîtes très, très engagées comme Interface, qui est une boîte business to business qui fait des dalles de moquette pour les bureaux, les hôtels, etc., qui est un leader de l'écologie industrielle, ont toujours dit, je me souviens, Ray Anderson, le fondateur d'Interface, disait, quand je parle à l'imparfait parce qu'il est malheureusement décédé, mais quand il présentait sa démarche, il disait, en gros, on a une montagne à gravir et on a fait que les premiers pas. Et c'est frappant de voir d'ailleurs que les entreprises les plus engagées sont celles qui ont le plus ce discours-là, de tous qui sont le mieux capables de parler de ce qu'elles font pas bien. Alors que paradoxalement, des fois, des entreprises qui se lancent commencent par dire non, mais ça y est, on est super bon là-dessus, etc. Mais fondamentalement, ces histoires de développement durable, ça consiste à travailler sur les écarts entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Donc en gros, c'est le champ sur lequel vous travaillez, c'est tout ce que vous faites pas bien, ou pas assez bien, ou pas encore assez bien. Voilà, donc c'est sûr qu'il vaut mieux pas avoir peur de l'échec. Ouais.
Et en même temps, ce champ ne cesse de grandir parce qu'il y a toujours des nouveaux objectifs, il y a peut-être que la problématique du plastique n'était pas celle qu'elle était aujourd'hui, et ça évolue en continu.
D'où le point, bah c'est aussi ça qui fait la beauté de l'aventure, j'ai envie de dire, le fait qu'il y a toujours des nouveaux défis. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir, on peut considérer, certaines personnes dans les entreprises considèrent qu'il y a un côté un peu, comment dire, ingrat, ou en tout cas difficile, un peu le côté Sisyphe et son rocher, c'est-à-dire que vous montez le rocher et pouf, ça descend et ça recommence. Mais oui, parce qu'effectivement, il y a toujours des nouveaux sujets qui émergent, parce qu'on atteint, comme le dit Malcolm Gladwell dans son bouquin Tipping Point, là, des tipping points, sur des points de bascule sur plein de sujets. Donc vous avez cité le plastique, on pourrait dire, j'en sais rien, l'alimentation végétarienne, le bien-être animal... bientôt la honte de prendre l'avion. Donc il y a des sujets sur lesquels on a l'impression que ça va pas avancer, ou sur lesquels les entreprises vous disent non mais là les gens sont pas prêts, ça va prendre des plombes, j'en sais rien, les Français sont pas végétariens. Bon, et puis on se retrouve 3-4 ans plus tard et Nestlé est en train de vendre Herta en disant je garde les protéines végétales parce que ça c'est l'avenir, et je vends tout ce qui est produit à base de protéines animales parce que c'est fini. Donc il y a bien un point de bascule qui s'est fait que personne voyait venir, et personne voyait venir aussi vite. Donc oui, il y a des changements qui, mais il y a un côté un peu ingrat, et en même temps c'est quand même la beauté de l'aventure. Et l'autre point important, parce que c'est qu'on pourrait avoir une vision du développement durable qui est que sur un peu, alors pour le coup c'est le côté très ingrat, sur la minimisation des impacts négatifs, c'est-à-dire en gros ça met le focus sur tout ce qui va pas bien dans la boîte et avec l'idée de le faire un peu moins mal, ce qui est jamais très gratifiant, parce qu'un peu moins mal, si vous êtes moins mauvais, vous n'êtes pas bon pour autant. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que depuis une dizaine d'années, le paradigme avec lequel on approche ces sujets de développement durable, il est plus uniquement sur... En gros, si historiquement, vous faisiez du less bad, donc la minimisation des impacts négatifs, et que vous étiez très bon là-dessus, ça suffisait à être vu comme le meilleur de la classe. Aujourd'hui, non seulement il y a une espèce de fatigue dans les entreprises sur ce truc-là, ce qu'on évoque là à l'instant, et puis ça ne suffit plus à être vu comme le meilleur de la classe. Et pour être le meilleur de la classe, il faut à la fois faire cette minimisation des impacts négatifs sur laquelle, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que comme vous dites, en plus, il y a sans arrêt des nouveaux sujets qui apparaissent, mais aussi, et de manière croissante, il y a, on voit avec la loi Pacte en France qui pousse le sujet de la raison d'être des entreprises, avec BlackRock, premier investisseur au monde, qui dit aux entreprises dont il est actionnaire, mais il est premier actionnaire d'une entreprise sur 5 aux US, donc c'est absolument énorme, qui dit, et d'ailleurs à d'autres entreprises qui sont présentes chez nous, qui leur dit, à terme, on n'investira plus, on ne se contentera pas d'investir dans des entreprises qui minimisent leurs impacts négatifs, mais on va chercher des entreprises qui ont une contribution positive à la société. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, en termes de motivation des gens dans les entreprises, et d'image de marque, et de réputation, on va chercher des combats positifs. D'accord. Donc comment, j'en sais rien, ma marque peut contribuer à résoudre le problème du plastique, peut devenir leader de l'économie circulaire. Et c'est là que les objectifs radicaux et la transformation intégrale de l'offre jouent. Parce que par contre, pour être crédible sur une transformation positive, San Francisco est crédible parce que c'est zéro déchet. C'est pas un peu moins de déchets chaque année.
Et parce qu'ils sont intransigeants sur le
Exactement.
sujet.
Exactement. Ouais. La beauté de l'aventure et le côté positif de la chose, c'est le côté, on est du côté de la solution, pas du côté de moins de problèmes.
Et donc chez Utopie, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez aussi toute une activité de réflexion,
ouais.
Un pôle réflexion, un think tank. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, l'idée, c'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant sur notre objectif, c'est de défricher. On dit dans notre manifeste « Ouvrir de nouvelles voies », c'est d'aller défricher des sujets nouveaux sur lesquels les entreprises ne travaillent pas ou pas encore, ou des pratiques nouvelles sur lesquelles elles ne travaillent pas ou pas encore, et qui nous paraissent porteuses de solutions et porteuses de pistes de travail à la fois positives, motivantes en interne pour les entreprises, différenciantes pour leurs marques, porteuse de valeur ajoutée pour la société, on va dire. Et voilà, donc ce qu'on essaie de montrer en général dans ces publications, donc on choisit des thèmes, je vais vous donner des exemples, on choisit des thèmes et après on essaie de montrer avec pas mal de perspectives internationales, beaucoup de bonnes pratiques qu'on évoquait tout à l'heure, donc montrer pourquoi c'est pertinent de travailler là-dessus, parce que la société civile l'attend, parce que les entreprises qui le font finalement s'en sortent plutôt mieux que les autres, et puis de montrer que c'est déjà là, c'est-à-dire qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent sur ce sujet, qui en font un sujet de travail, pour montrer que c'est possible. À nouveau, c'est le point des bonnes pratiques qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, et puis après, les sujets, on les laisse émerger ou pas. Et alors, ce qu'on fait depuis toujours sur cette partie think tank, c'est que c'est l'héritage, je sais pas, militant, associatif là-dessus. C'est que tout ce qu'on publie est gratuit, accessible et en ligne.
C'est ce que j'allais dire.
Y compris à des consommateurs, les médias, des concurrents, etc. Des clients, des non-clients. Parce que l'idée, c'est vraiment là de convaincre, de faire avancer les consciences de tout le monde, là, pour le coup. Voilà. Donc, par exemple, historiquement, on a fait. J'aime bien prendre cet exemple-là parce qu'il illustre assez bien on a fait par exemple une note qu'on est censé mettre à jour cette année sur les pratiques de fiscalité responsable dans les entreprises. Donc ça, c'est compliqué parce que la responsabilité fiscale, c'est pas le sujet le plus simple. C'est-à-dire que c'est un sujet assez tabou dans les entreprises. En général, elles n'en font pas des caisses dans leur rapport, même dans leur rapport développement durable sur les impôts qu'elles payent, etc. Elles le font parce qu'elles sont obligées. Les pratiques dites, non pas d'évasion, mais d'optimisation fiscale sont légales. Donc comment vous utilisez les textes de loi pour en payer le moins possible. Elles n'en parlaient pas beaucoup. Et puis, certaines ONG ont commencé à faire des campagnes là-dessus notamment en Angleterre, en disant, l'OCDE travaille beaucoup dessus, en disant aux entreprises, puis on a vu, et puis évidemment il y avait tous les problèmes, en tout cas l'émergence de ces sujets liés à l'arrivée des entreprises du numérique notamment, qui font beaucoup de chiffre d'affaires dans un pays sans avoir quasiment de salariés d'usine. Alors le système fiscal dans nos pays est fait avec l'idée qu'une entreprise qui est très présente dans un pays, elle y a beaucoup de chiffre d'affaires, mais aussi beaucoup de salariés et beaucoup d'usines. Or là, avec le numérique, évidemment, ça perturbe un peu cette approche-là. Non pas forcément, d'ailleurs, je pense que les entreprises du numérique veulent plus gruger que les autres ou optimiser que les autres. Simplement, par leur nature, elles sont, entre guillemets, hors la loi, enfin, hors l'esprit de la loi. Bon, alors voilà. Donc, du coup, bon, les entreprises, en tout cas du numérique, posaient cette question-là. Les entreprises très mondialisées qui arrivent à faire de l'optimisation fiscale, à nouveau, les lois n'ont peut-être pas été conçues avec cette idée-là. Et donc, on a commencé à avoir des gouvernements, l'OCDE, enfin des instances internationales qui disaient, qui essayaient de récupérer de la fiscalité, en gros, des gouvernements qui essayaient de récupérer de la fiscalité. Et de manière intéressante, là aussi, il y a un changement, c'est-à-dire que certains gouvernements qui, il y a quelques décennies, disaient aux entreprises « venez chez nous parce que vous y paierez moins d'impôts », qui maintenant disent « oui, bon, bah maintenant, il faudrait quand même payer des impôts ici, enfin, alors que vous ne pouvez pas aller ailleurs parce que vous payez moins d'impôts ». Mais nous-mêmes, parfois, les pays eux-mêmes ont utilisé cet argument-là il y a quelques années pour attirer les entreprises, l'utilisent encore parfois. Et puis, des ONG qui faisaient campagne, là, alors plus sur des sujets plutôt liés au Nord-Sud, en disant aux entreprises « vous ne pouvez pas vous développer dans des pays du Sud moins riches, et ne pas y payer d'impôts à la hauteur du business que vous y développez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez faire du business là-bas parce qu'il commence à y avoir une classe moyenne qui est capable de dépenser de l'argent, etc. Et si dans le même temps, vous faites de l'optimisation fiscale et en l'occurrence, limite même de l'évasion, c'est-à-dire pour ne pas payer dans ces pays-là, ben dans ce cas, vous ne jouez pas votre rôle citoyen qui serait de contribuer au fait qu'il y ait des routes en meilleur état, un système de santé en meilleur état. Et globalement, ces infrastructures vont contribuer aussi à la classe moyenne et à votre business à moyen terme. Donc il y a un espèce de cercle vertueux à payer ses impôts. Voilà. Bon. Et alors, ça a l'air de venir du coup d'acteurs qui sont hors de l'entreprise. Et puis, ce qu'on voulait montrer, c'était à la fois faire un état des lieux de ça, montrer que les agences de notation extra-financière commençaient à s'intéresser à ces sujets-là et à poser des questions aux entreprises. Donc ça devenait que ça arrivait, et notamment ça me faisait écho à quelques discussions que j'avais avec certains de nos clients qui me disaient, à qui je disais on va faire un sujet là-dessus, est-ce que ça t'intéresse, tout ça, qui me disaient ah non mais là faut pas pousser, ça fait pas partie de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et de fait, j'avais eu quelques discussions avec des directeurs de la fiscalité qui disaient non mais nous, en gros, ça c'est la fin de notre métier ce que vous racontez. Et donc on voulait montrer qu'il y avait des entreprises, et notamment en Angleterre, qui commençaient à traiter cette question-là, qui écrivaient quelque chose qui s'appelait une politique fiscale responsable, qui acceptaient de rendre des comptes sur, par exemple, la répartition du chiffre d'affaires, des profits et la répartition des taxes payées géographiquement, ce que beaucoup d'entreprises se refusent à faire, par exemple, dans le rapport annuel, vous n'êtes censé, si vous êtes un groupe international, donner des... vous consolidez tout, c'est-à-dire que vous dites combien de taxes vous payez au niveau global, sans donner le détail par pays, ce qui permettrait par exemple à des ONG de regarder si c'est la répartition de votre chiffre d'affaires ou de vos profits correspond à la répartition de vos impôts, ni même quel type de taxes vous payez, par exemple. Est-ce que vous payez, il y a l'impôt sur les sociétés, mais il y a aussi les taxes sur les salaires, etc. Bon, et il n'y a jamais le détail, en fait. Et certaines entreprises commencent à donner du détail, à rendre des comptes sur leur politique fiscale. Vodafone, une année, avait même fait tout un encart sur... l'an dernier, on n'a pas payé d'impôts. Pourquoi ? Montrer que ce n'était pas une question d'évasion fiscale, mais que c'était des rattrapages d'années précédentes, etc. Bon, voilà. Donc, on peut avoir Unilever à un reporting sur géographique, et par pays et par type de taxe, par zone géographique et par type de taxe, etc. Donc, on commence à avoir des entreprises, ou des entreprises dans le domaine de l'alcool, par exemple, dont une grosse partie du prix... comme pour le tabac d'ailleurs, où l'essence est constituée de taxes, rendre des comptes sur les taxes qu'elles payent, ce que ça, comment ça impacte leur prix, etc.
Plutôt des entreprises britanniques.
Plutôt des entreprises britanniques, parce qu'il y a une ONG notamment qui s'appelle Action Aid, qui a eu beaucoup de Oxfam, etc., qui ont eu beaucoup de campagnes là-dessus par rapport aux pays du Sud, qui ont publié des rapports. The Guardian avait fait une campagne s'appelait The Tax Gap, qui montrait pour les entreprises cotées à Londres combien elles payaient d'impôts par rapport à combien elles auraient dû payer. Et donc il y avait une pression plus forte. Le gouvernement britannique, les gouvernements britanniques précédents avaient même chose, poussé les entreprises à communiquer là-dessus. Donc il y avait pas mal d'entreprises anglo-saxonnes de fait qui ont communiqué sur ce sujet-là.
Ça devrait pas tarder à arriver ici.
Alors
quand même.
Nous, la publication qu'on a faite, c'était il y a 5 ans. Dans la foulée, on avait fait un petit groupe. On avait quand même trouvé 5-6 entreprises que ça intéressait. On avait fait un petit groupe de travail avec elles pour leur faire rencontrer les acteurs qui était un peu avancé là-dessus, du côté des institutions OCDE, des ONG et des entreprises. Et quelques-unes ont intégré le sujet dans leur rapport développement durable derrière, pas de manière hyper ambitieuse, mais ça va. Ouais, je pense qu'il faut 10 ans à peu près pour qu'un sujet émerge, donc on y va.
Et donc chez Utopie, comment ça se passe exactement ? Maintenant, vous avez dit que vous aviez une cinquantaine de salariés. Comment ça se découpe ? C'est des très beaux bureaux, éco-bureaux.
Ouais, alors on essaie de pas les découper trop, mais en tout cas, historiquement, comment ça a grandi, c'est plus intéressant comme ça.
Ouais.
Au fond, l'organisation...
C'est plutôt
bah, je vais vous la décrire, mais elle est appelée à évoluer tout le temps, parce qu'elle évolue beaucoup avec l'activité, et puis qu'il n'y a pas d'organisation idéale. Et je me souviens, au tout début d'Utopie, on a organisé une conférence qui s'appelait le Better World Business Forum à l'ESCP tous les 2 ou 3 ans. Et on avait invité un monsieur qui s'appelait Bertrand Martin, qui avait repris une boîte en France qui s'appelait New Suzer Diesel. Et il disait un truc que je pense assez juste, c'est au fond, il n'y a pas de bonne organisation. Ce qui compte, c'est d'en changer tout le temps. Il disait le seul moment où ça bouge plus, c'est au cimetière. Et au fond, c'est pas un endroit, c'est pas vraiment la situation idéale. Donc, donc non, mais la façon dont on a historiquement grandi, on avait un pôle qui était... un pôle stratégie développement durable, un pôle reporting développement durable qui historiquement étaient séparés, qu'on a regroupé, parce qu'au fond le reporting, faire un rapport développement durable, c'est une façon de réorienter la stratégie, de vérifier qu'on est dans la plaque, etc. Après on a eu historiquement des pôles sectoriels. Le premier, c'était sur la construction durable, qui existe toujours mais qui a changé maintenant, qui s'appelle bâtiment et territoire, donc qui intègre aussi les problématiques de ville durable, etc. Et aussi les problématiques constructives, genre bâtiments écologiques et autres. Mais enfin, un bâtiment écologique qui serait inaccessible par les transports en commun, par exemple, ça n'a pas de sens sur le bilan carbone. Donc d'où le fait d'avoir une problématique plus globale sur la ville. Après, on a créé un pôle sur alimentation durable, qui est progressivement intégré aussi d'autres secteurs liés à la consommation responsable. Donc plus qui s'appelle maintenant donc alimentation et consommation responsable, qui intègre aussi la cosmétique, qui a des problématiques assez proches de la non pas ce qu'on met dans le corps et sur le corps, il y a un peu des ponts, mais à la fois en termes de vigilance sur les formules, les recettes, de toxicité des ingrédients, de traçabilité des matières premières, etc. Donc on voit bien, voilà, nous-mêmes on fait évoluer. Et notre organisation. Et puis, il y a 5-6 ans, on a décidé qu'on allait insister, en fait, comme on reste, alors 50, c'est un peu plus gros que ce qu'on était au début, et que certains de nos tout petits concurrents, mais c'est beaucoup plus petit que nos... On est toujours le très gros de quelqu'un, le plus petit d'un autre, mais que nos très gros concurrents du conseil classique. Et donc, on s'est dit qu'on allait concentrer nos efforts sur ce qu'on appelle, nous, des points d'acupuncture, qui nous permettent, dont on pense qu'en appuyant là, on peut avoir le plus d'effet pour ce qu'on veut faire, c'est-à-dire faire intégrer le développement durable dans les stratégies business. Et donc, on a choisi notamment 3 points qui sont, les stratégies de marque, ce qui est une façon de dire aux entreprises à la fois de travailler sur leur raison d'être et de pas se dire il y a la raison d'être business et la raison d'être RSE, ça marche pas. Donc la mission RSE, la mission de la marque, ça doit être la même chose. Donc les inviter à travailler là-dessus. Les inviter à renouveler leur gamme, vraiment transformer leur offre, pas à la marge en lançant une gamme verte, une gamme équitable, une gamme bio, je sais pas quoi, qui représente 0,3% du chiffre d'affaires et sur laquelle on fait plein de communiqués de presse, mais vraiment de se dire combien de temps on se donne comme Marks & Spencer pour transformer 100% de ce qu'on fait sans pour rendre l'offre 100% responsable. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est toute bio, il peut y avoir une partie qui est bio, une partie équitable, une partie sans emballage, une partie je ne sais pas quoi, mais en tout cas de se dire à terme ça doit concerner 100% de ce qu'on fait. Donc ce que les anglo-saxons appellent le choice editing, hein, la généralisation de l'offre responsable. Et donc là, le deuxième point sur lequel on, point d'acupuncture sur lequel on travaille, c'est tout ce qui a trait à l'innovation et comment le développement durable devient un levier d'innovation au même titre que le digital, et souvent d'ailleurs avec le digital. Donc innovation dans les pratiques, dans les organisations, évidemment dans l'offre, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis le troisième sujet qui est important sur lequel on insiste, troisième point d'acupuncture pour nous, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle chez nous ancrage local, qui consiste à travailler en gros sur si l'entreprise dit je veux apporter une valeur ajoutée à mes parties prenantes, à la société, etc. Ce truc-là, il se vérifie et il se mesure et il se joue. L'entreprise, elle n'est pas hors sol, elle est toujours implantée sur des territoires. Et ça se joue, même pour une entreprise globale comme Nike, ça se joue sur des territoires. Donc là où vous sourcez vos matières premières, là où vivent vos clients, là où vous avez vos usines, où vos produits, si c'est pas vos usines, là où sont vos sous-traitants et où vos produits sont fabriqués, etc., etc. Et donc, typiquement, la question de la fiscalité par territoire, ça, on voit bien qu'à un moment, cette responsabilité fiscale, elle va se jouer pays par pays, pays d'implantation par pays d'implantation. Et donc, voilà, donc ça, c'est le troisième sujet sur lequel on travaille beaucoup, avec un certain nombre d'outils de mesure de l'empreinte locale d'une activité ou d'une entreprise. C'est sur les territoires, et par territoire, j'entends, ça peut être un pays, une région, un département, une ville, etc.
Et tout à l'heure, vous mentionnez vos 21 ans, il me semble, 20 ou 21 ans. Mmh. Et vous avez parlé de la certification B Corp.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, effectivement, c'était pour les 21 ans d'Utopie. En fait, au départ, on voulait fêter les 20 ans, puis on était à la bourre.
Un peu trop en retard.
Et donc, on s'est dit, non, mais en fait, on va fêter les 21, parce qu'à un moment, sur le développement durable, tout était 21, parce que c'était pour le 21e ouais. siècle. Donc, on s'est dit, bon, on va faire original, le développement durable, on va fêter les 21 ans. Mais en vrai, c'est parce qu'on était en retard.
Donc, vous ferez les 30 ans, pas les 31.
Comment ?
Vous ferez les 30
non,
ans,
là,
pas les 31.
Non, là, on fait les 25, mais on s'est donné, par exemple, on s'est dit, on va les fêter sur un an. Donc, ça nous laisse un peu plus de marge. Non, mais c'est vrai, c'est un peu débile de se dire, il y a une date. Bon, voilà. Et puis ça nous permet de faire plus de choses. Au fond, c'est toujours un prétexte pour renforcer un peu l'engagement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, sur les 21 ans, effectivement, je cherchais un moyen de redire, puisque après 20 ans, le développement durable est un peu plus connu. On avait un peu plus de concurrents. Et beaucoup de gens, finalement, arrivant maintenant sur ces sujets, voient la RSE comme un truc presque réglementaire, ce qui est horrible. Enfin, en tout cas, ça ne correspond pas du tout à... même si je pense que la réglementation a un vrai rôle à jouer, mais ça ne correspond pas, en tout cas, au travail qu'on fait, qui n'est pas juste d'aider les entreprises à mieux respecter la loi. Je considère qu'elles le font, qu'elles doivent le faire de toute façon, et donc ce qu'on les aide plutôt, c'est à faire tout ce qui est au-delà, qui est peut-être en anticipation des lois de demain. Et donc je voulais une façon de réaffirmer le côté militant engagé d'Utopie, rappeler un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'origine associative, etc. Et bon, chercher une façon de faire ça, de dire qu'on n'était pas un cabinet de conseil comme les autres, maintenant qu'il y en a d'autres. Et qu'on avait.
Que vous aviez conservé votre ADN.
Côté think tank, oui, mais comme l'ADN, il n'y a pas grand monde qui le connaît à part moi.
Oui, voilà.
Les gens qui étaient par définition, les gens qui étaient là au début, même dans l'équipe, il y en a moins. Donc je voulais, même pour l'interne, hein, parce qu'à partir de 50 salariés, en fait, ce n'est pas une grosse entreprise, mais enfin, les gens y rentrent, ils ne connaissent pas forcément l'histoire.
Bien sûr.
Et donc on voulait une façon de réaffirmer ça. Et je me suis dit que la certification B Corp, que moi je connaissais bien parce qu'on est historiquement proche de Patagonia, d'entreprises américaines comme Give Something Back, etc., qui est grosse entreprise de fourniture de bureaux aux États-Unis, c'était une façon, c'était des gens qu'on avait souvent fait venir en France pour en parler, et c'était finalement rentrer dans la certification B Corp, qui historiquement n'était pas présente en France, c'était une façon pour nous de... d'abord de la faire venir ici, et puis de réaffirmer ce côté-là, puisque dans B Corp, il y a le B de B Corp, c'est une certification qui est née en 2006 aux États-Unis, Et qui a deux slogans. Après, je vais expliquer un peu comment ça marche, mais qui a deux slogans différents qui correspondaient bien à ce que je voulais faire à ce moment-là. Qui était le premier slogan, c'est for profit for purpose. Donc l'idée qu'on peut être ou for purpose for profit, l'idée qu'on peut être à but lucratif et servir l'intérêt général. C'était exactement ce que j'expliquais tout à l'heure pour nous. Et la deuxième deuxième slogan de B Corp, c'est using business as a force for good, faire de l'entreprise une force de changement positif dans la société. C'est aussi ça. Qu'on dit à nos clients. Donc, je trouvais que c'était très en phase. Et puis, c'est très en phase avec les trois points d'acupuncture que j'ai évoqués tout à l'heure, qui étaient la marque, les marques engagées, en gros, la marque, ce que nous, on appelle la marque positive, l'innovation durable, et puis l'ancrage local. Ces trois dimensions qui sont très, très, très présentes dans la certification B Corp. Alors, comment ça marche? Donc, c'est né en 2006 aux États-Unis. Ça a commencé avec des entreprises américaines. Donc B, c'est Benefit Corporation, dans l'entreprise au bénéfice de la société, bénéfique pour la société. Ça n'est ouvert qu'à des entreprises, donc à but lucratif. Et ça repose... Alors aujourd'hui, B Corp est plus du tout uniquement aux États-Unis. Il y a 3000 entreprises certifiées dans le monde, dans plus de 60 pays. Les plus gros étant historiquement des gens comme Patagonia, Natura, qui est le géant cosmétique brésilien. Danone a aujourd'hui un tiers de son chiffre d'affaires qui vient de filiales qui sont certifiées. Donc, c'est plus du tout. On a été la première entreprise certifiée en France, Utopie. Et après, depuis, on s'occupe du développement du label en France et de la communauté, parce que c'est plus un label et un mouvement d'entreprise. Je vais en reparler. Et je tenais vraiment à ce que ça soit pas un rassemblement de petits consultants en développement durable, quoi, ce qui n'aurait aucun intérêt. Il fallait qu'on ait des Natures et Découvertes, La Ruche qui dit oui, Ulule, Veja, Cogent, etc. Enfin, des entreprises de taille intermédiaire, mais très significativement engagées, appartenant à des familles différentes. C'est un peu un jeu des sept familles. Il y a les gens du Made in France, la Camif, les gens de la consommation collaborative, La Ruche qui dit oui, Ulule. Les gens du bio, Björk, Bonter et compagnie, etc. Les gens de l'écologie, Nature et Découverte, les gens du commerce équitable, Veja, etc. Et c'est cette communauté-là. Aujourd'hui, on a une petite centaine d'entreprises en France labellisées qui donnent la force qui font la force et l'intérêt de la communauté. Alors, comment ça marche? Donc, il y a un questionnaire qui a été fait au départ par la fondation de Loate pour B Corp. B Corp est géré par une ONG qui s'appelle B-Lab, dont l'antenne française vient d'être créée, une association à but non lucratif donc. Et vous avez donc ce questionnaire qui a été inspiré des meilleurs questionnaires, meilleurs référentiels développement durable, qui comporte 200 questions pardon, qui vous donnent une note sur 200 points. Et le questionnaire est adapté à votre secteur d'activité et vos pays d'implantation. Autrement dit, par exemple, si vous êtes en France, la loi sociale est plus exigeante que dans d'autres pays, mais le respecter la loi, ça ne vous donne pas de points. Alors que ces pratiques qui correspondent au niveau de la loi française ailleurs vous donnerait des points. Typiquement, proposer une mutuelle de santé à ses salariés. Nous, quand on a commencé Utopie, on le faisait, c'était pas obligatoire. Ça aurait apporté des points dans le questionnaire B Corp. Aujourd'hui, en France, c'est la loi, ça apporte plus de points. Donc, ce genre de choses. Donc, vous avez le questionnaire, il est révisé. Alors, donc, le questionnaire, 200 questions, ça vous donne une note sur 200 points. Je précise, parce que c'est une différence importante de B Corp et pour moi un intérêt de B Corp, que le questionnaire est gratuit, accessible et en ligne partout dans le monde, à n'importe quelle entreprise et même à une association qui ne pourra pas être certifiée mais qui peut quand même évaluer ses pratiques. Il suffit de remplir sa fiche, de dire qui vous êtes et derrière, vous pouvez faire le questionnaire, avoir votre note sur 200 points, vous comparer à d'autres de votre secteur qui ont fait le... Et tout ça, ça coûte rien et c'est seulement si vous avez plus de 80 points et que vous souhaitez être certifié. Vous pouvez aussi avoir plus de 80 points et ne pas souhaiter être certifié. Mais donc, c'est un super outil de progrès avant tout. Et après, si vous avez plus de 80 points et que vous voulez être certifié, à ce moment-là, vous allez avoir un audit, pouvoir utiliser le label une fois que vous êtes certifié, etc. Et là, vous payez des royalties qui dépendent de la taille de l'entreprise et de manière à ce que ce soit accessible à tous. Et puis... la certification est valable 3 ans. Ça, c'est hyper important parce que B Corp considère que, en gros, l'entreprise, un entrepreneur, il a mieux à faire que de passer son temps à faire du reporting et à remplir des questionnaires. Or, si c'était tous les ans, en gros, ça prend tellement de temps à faire, parce que c'est entre 2-3 mois facile ou 6 mois pour certains. Donc si c'était tous les ans, vous passeriez votre temps et vous n'auriez pas le temps de consacrer vos efforts à progresser. Or, l'objectif, c'est ça. Et donc, le questionnaire est révisé par un comité indépendant au niveau international tous les 18 mois. Ce qui fait qu'entre deux certifications, donc là, nous, par exemple, on est sur notre troisième certification, parce que c'était fin 2013, 2016, 2019. Eh bien, entre deux certifications, vous avez un peu intérêt à progresser parce que le questionnaire, lui, progresse. Et donc, si vous voulez garder votre nombre de points, ne pas le voir descendre inexorablement de recertification en certification et finir par passer sous le seuil fatidique des 80 points, alors il faut vraiment progresser entre deux. Et c'est à ça que ça sert, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est hyper stimulant. Nous, depuis qu'on s'est engagé là-dedans, ça correspond aussi à une phase où on a pas mal développé Utopie, parce qu'on a à peu près doublé la taille en 4 ans, depuis qu'on s'est concentré sur les 3 points que j'évoquais tout à l'heure. Et au fond, Bicorp, nous, ça nous a servi à faire ça, c'est-à-dire à montrer à l'équipe notamment, mais en externe, et puis à s'astreindre nous-mêmes, à s'engager nous-mêmes à faire en sorte que malgré que la croissance ne corresponde pas à une dilution de nos engagements, mais à un renforcement de nos engagements. Autrement dit, plus on est gros, plus on a de moyens, en théorie, plus on a d'influence et plus on veut être engagé. Et on s'est d'ailleurs en parallèle, alors qu'on n'était pas, moi j'étais pas très certification à l'origine, mais en fait les certifications, si on les utilise comme un moyen de progrès, alors c'est intéressant, pas comme une fin en soi. On s'est aussi engagé dans la certification Great Place to Work, puisqu'on était numéro 1 du classement là cette année, des entreprises de moins de 50 en France, sur le volet plus RH interne, etc. Donc c'est vraiment un outil de progrès. Je sais pas, là, j'ai pas encore vu l'équipe chez moi qui s'occupe de préparer notre troisième certification. J'espère qu'on a augmenté notre nombre de points, mais c'est pas évident parce qu'en fait, comme les critères progressent.
Oui, mais ça s'inscrit vraiment dans votre vision du développement durable qui n'est pas une bulle fermée. Et qui est toujours qui tire vers le haut.
Bah en tout cas ce truc d'utopie, typiquement dans le cas de Bicorp, l'utopie c'est les 200 points. Personne les a. Hein. Il y a Patagonia quand même dans la communauté qui est, je considère être une entreprise hyper avancée. Je crois qu'ils sont à 154. Nous on est à 98, je crois, ou 90 et quelques. Et Patagonia est pas l'entreprise qui est la mieux notée au monde. Je crois que l'entreprise la mieux notée au monde c'est une entreprise téléphonique africaine qui est à 174 ou...
Ouais, mais bon. Personne n'a les 200 points.
Donc personne n'a les 200 points. Et je pense que personne ne les aura jamais. Vu la progression du questionnaire, personne ne les aura jamais. Donc c'est exactement, oui, c'est une bonne façon de poser les choses.
J'aime bien finir avec des petites questions de fin, mais où on... plus tac au tac comme ça.
Ouais,
et bah voilà.
Comme vous voulez.
C'est tout. Sauf si vous avez des choses à ajouter.
Non, je crois qu'on a balayé
pas mal
de
choses.
Ouais, je
pense que ça, c'est intéressant.
Non, ce qu'on n'a pas dit, c'est que peut-être pour les 25 ans d'Utopie,
L'année prochaine.
C'est-à-dire non, maintenant en fait, on est
en ce moment.
C'est ongoing. On essaie. Alors je sais pas si on arrivera à avoir 25 projets, mais mon idée c'était, on va faire un petit peu de célébration des 25 années écoulées. Mais enfin, comme ça me donne l'impression d'être très vieille d'une part, et d'autre part, je sais pas trop. Dans ce que j'aime faire, de regarder avec satisfaction. Il faut le faire un peu quand même, mais notamment pour rappeler aux gens qui n'ont pas connu les 25 ans, ce qu'on a fait depuis 25 ans. Mais ce que je voulais qu'on fasse, c'était qu'on pose 25 projets en collab avec des marques, des entreprises, des ONG, etc., qui préfigurent ce qu'on veut faire pour les 25 années suivantes. Donc on a mis en chantier plein de choses. Alors on a fait... il y a des choses en interne, donc Great Place to Work, on voulait être numéro 1 l'année des 25 ans, donc ça c'est fait. On a signé plein de chartes, la charte de la parentalité, la charte LGBT, etc., en essayant de c'est aussi une façon pour nous de faire savoir à l'équipe que ça existe, de se l'appliquer à nous-mêmes et du coup de s'en faire aussi les défenseurs auprès de nos clients quand on travaille sur des problématiques RH, etc. On a proposé des projets ou discuté avec des entreprises qu'on aime bien, avec lesquelles on fait des choses différentes. Donc on a travaillé sur la politique zéro plastique. Là aussi, c'est l'objectif visé. On n'y est pas tout à fait chez Cogen, avec Cogen, avec vraiment beaucoup de volonté de leur part de mettre en œuvre des choses très innovantes. Et on avait déjà travaillé là-dessus il y a 10 ans, puisqu'ils étaient déjà passés à 80% de plastique recyclé dans les dans les bols pour les salades. On avait supprimé les transports en avion, mis en place la récupération des invendus du jour qui sont redistribués à des ONG. Enfin, il y a plein de choses qu'on avait déjà mises en place. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire un gros focus sur le plastique. Donc là, il passe cet été, où là, ça a dû être fait, à 100% de plastique recyclé sur tous les bols. Et avec l'idée, même maintenant, de récupérer les bols et à terme de boucler la boucle, c'est-à-dire de faire les bols avec le plastique qu'ils récupèrent eux. Pour l'instant, c'est du plastique récupéré de bouteilles plastiques. Mais voilà, c'est ça l'objectif. C'est un peu mais ça correspond un peu à se fixer et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire bouger sur au moins un restaurant pilote dans Paris. Est-ce qu'on peut tester des choses de type ramener vos contenants, etc. Ce qui est compliqué parce qu'ils ont un débit. Le midi, si vous êtes déjà allé chez Cogent, il y a beaucoup de monde. Et ce qui fait partie de la satisfaction aussi des clients, c'est qu'ils sont servis rapidement et que ça ne leur prend pas 3 heures. Clairement, si j'arrive avec mon Tupperware qu'ils doivent le remplir... Ça prend beaucoup plus de temps que de récupérer une salade, de passer rapidement à la caisse, d'avoir quelqu'un qui est hyper sympa. Et ils sont aussi hyper sympas parce qu'ils sont pas stressés, que c'est assez fluide. Et donc, voilà. Il y a des petits challenges comme ça, mais c'est hyper intéressant. Et au départ, quand Alain Cogent a commencé, il y avait de la vaisselle en porcelaine pour les gens qui restaient sur place, ce qui n'est pas la majorité de la consommation, mais une partie. Et de la vaisselle en dur, des couverts, etc. Donc là, il y a une question, c'est est-ce qu'on peut remettre ça ? Mais alors, on s'aperçoit que comme c'est assez joli quand ils remettent ça, c'est piqué par des gens, voilà, et les gens les emmènent. Bon, alors, on peut se considérer que c'est pas grave qu'une partie disparaisse. Enfin bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qu'ils veulent retester. Le fait de pas distribuer les couverts quand les gens emportent, par exemple, de les faire sur demande. À nouveau, ça prend un peu de temps, donc ça casse un peu le rythme de. En gros, le business de Cogent se joue vraiment à l'heure du déjeuner. Donc
ils sont implantés quand même dans des quartiers où il y a beaucoup de gens qui travaillent.
Voilà, les gens bossent, ils n'ont pas envie de ça. Voilà, mais en tout cas, les gens ont aussi envie de ça en même temps.
Bien
sûr. Donc on a travaillé là-dessus. On travaille avec Veja sur leur politique carbone, aussi la politique de récupération des chaussures, etc. Donc, enfin, un certain nombre de points. On travaille avec Nature et Découverte sur réactiver la raison d'être de l'entreprise, etc. Enfin, bon, il y a plein de projets. On lance un accélérateur de start-up qui vise à la fois à faire ce qu'on a toujours fait au fond, c'est-à-dire aider des jeunes entreprises avec des offres très très innovantes sur les sujets de développement durable à se développer, mais du coup on le fait en échange d'une petite micro-prise de capital, non pas que je compte là-dessus pour assurer l'avenir d'Utopie, mais pour aussi redévelopper la fibre entrepreneuriale en interne chez nous, qui est peut-être moins visible à partir du moment où on est un peu plus gros, les gens ont moins l'impression d'être eux-mêmes dans une start-up, enfin bon bref. Donc ça, et puis c'est aussi un service qu'on rend à nos plus gros clients, parce que comme ça, quand je dis à un de mes clients, par exemple, dans l'accélérateur, on a une entreprise qui s'appelle Place2Swap qui propose en marque blanche une plateforme qui permet aux marques de mode de permettre à leurs clients de se revendre des vêtements de cette marque entre eux. Ça me permet de dire à mes clients dans la mode « Ah, lancez-vous dans l'économie circulaire », mais de ne pas m'arrêter à juste leur dire « Faites-le », mais de les aider à le faire avec une solution qui, de mon point de vue, est la plus pertinente du marché, etc. Et les fondatrices de Place2Swap, ça leur permet de rencontrer plus rapidement des grandes marques. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de choses. Nous, on travaille pas mal avec des investisseurs à impact aussi. Donc, certaines de ces startups cherchent des fonds. Donc, voilà, c'est une façon... Et sur des sujets très différents. On en a une qui a monté un truc super qui s'appelle Marie-Éloi. La boîte s'appelle Bouge ta boîte, sur l'entrepreneuriat au féminin, pour aider les femmes qui montent leur boîte à être en réseau et du coup à se développer plus vite en constatant qu'elles font moins spontanément les réseaux que les hommes, etc. Bon, donc y a, ça peut être sur plein de sujets et c'est intéressant aussi. Voilà, il y a plein de projets. Mais l'idée, c'est vraiment de préfigurer un peu ce que je voudrais qu'on fasse dans les 25 prochaines années, qui va d'ailleurs vers, et c'est le point de l'accélérateur de start-up, plus de concret et plus d'impact au fond, parce que c'est ça qu'on cherche. Plus d'impact, ça suppose de faire peut-être moins de PowerPoint et plus d'actions concrètes avec nos clients.
Et donc ces 25 projets, vous allez les révéler à la fin de l'année?
On va essayer quand même à un moment de faire un espèce de bilan sur ces 25 projets, mais certains sont derrière nous, certains sont devant nous. On va lancer un petit guide sur les réunions en marchant aussi. Enfin, c'est vraiment un peu tous azimuts, mais par exemple, on trouve que sur la qualité de vie au travail, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, nous on essaie d'avoir une politique un peu comment on remet du sport, en tout cas de la qualité de vie, du bien-être dans le bureau. Et par exemple, faire toujours des réunions assis sur une chaise, c'est horrible. Quand on a fait un voyage d'études en Hollande avec certains de nos clients sur les espaces de travail, et il y avait pas mal de... Vous savez, maintenant, il y a pas mal de boîtes qui mettent des bureaux debout. On en a mis un d'ailleurs là, pour travailler, et ou faire des réunions, et qui disent... le motto, le slogan un peu de ces nouvelles approches au travail, c'est « Sitting is the new smoking », en montrant qu'en fait, l'inactivité physique tue plus de gens que le tabac, quasiment. Donc on se dit, il y a tout un mouvement à lancer sur les walking meetings. On a la chance de travailler dans Paris, de pouvoir faire, vous faites une réunion d'un quart d'heure, vous pouvez faire le tour du quartier un peu plus long, etc. Et ça crée pas la même dynamique que d'être immobile face à face, que de marcher ensemble dans la même direction. Voilà. Donc, c'est des petites choses comme ça.
C'est bien. Vous vous reposez jamais sur vos lauriers.
Ben, on essaie de ne pas.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Elisabeth. C'était très intéressant.
Merci à vous.
Et puis à la prochaine.
Ben ouais, à la prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le relayer sur vos réseaux sociaux et à me taguer. Et à le partager également avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Vous pouvez bien évidemment me laisser une note et des étoiles sur les plateformes d'Apple Podcast ou via l'application ICO Podcast. Vos notes et vos commentaires sont très importants. Non seulement ils m'encouragent, mais ils me permettent également d'être mieux référencé et de partager le podcast à un plus grand nombre d'auditeurs. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt !